Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans le studio chaleureux de Radio Foot International, sur la radio mondiale bien sûr, et pour vous parler encore de Ligue des Champions. L'heure de vérité pour le PSG et Manchester City. Ce soir, au Parc des Princes, chacune des deux équipes doit l'emporter pour continuer dans la compétition. Quels atouts, quelles forces pour s'imposer entre des Parisiens à la peine sur la scène européenne et des citizens en meilleure forme ces temps-ci. L'avis de nos amis spécialistes, bien sûr. Brest face au Shakhtar, loin de Donetsk. Les Bretons joueront leur accès direct en huitième face au club ukrainien. La réussite sera-t-elle toujours à leur côté, à ces Bretons? Ils y croient bien sûr. Les Meringues du Real en forme européenne, mal classés, ils doivent marquer des points. Et le RB Salzbourg pourrait bien passer une dure soirée à Madrid. Et puis nous reviendrons bien sûr sur les matchs d'hier soir, sur la victoire dingue des Blaugrana à Lisbonne, le coup de grâce habituel des Colchoneros face au Bayern, le sursaut de Monaco contre Aston Villa, enfin des Dogs battus par les Reds, mais avec les honneurs. Et pour évoquer ces sujets avec moi, il y a d'abord Bruno Constant. Bonjour Bruno.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Notre ami spécialiste du foot anglais qui va nous dire tout sur les Citizens, bien sûr. Hein, je vois votre petit sourire en coin.
Belle qu'est-ce soirée
que ça
à venir.
Peut, qu'est-ce que ça peut cacher, Cédric De Oliveira, selon vous? Bonsoir.
Bonsoir. Oh, bah, je pense qu'en connaissant Bruno, c'est un petit pronostic en faveur d'un club anglais.
Pas forcément.
Bon, il y a plein de surprises.
Vous, Cédric, vous serez tout à l'heure au parc, alors vous pourrez lui faire des clins d'œil à Bruno de loin. Il y a aussi Ludovic Duchesne. Bonjour Ludovic.
Salut Annie, bonsoir à toutes et à tous.
Et puis notre confrère espagnol Manu Taladios. Bonjour, bonsoir Manu.
Buenas tardes, bonjour
Buenas
à tous.
Tardes, oui.
Sauf à ceux qui doutaient de la qualité d'Mbappé.
Oui. Bien sûr, vous êtes parmi les défenseurs. Il y en a un autre à côté de Laurent Salerno, là, un certain David Finzel. Pierre Guérin et David m'ont aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Mercredi, soyez 47 000 à vous casser la voix.
L'appel de Blaise Matuidi aux supporters parisiens. Ils sont souvent entendus, ces appels, mais pas toujours avec succès pour l'équipe. Mais on verra bien ce soir. En tout cas, les deux adversaires de la soirée sont au pied du mur, tant le Paris Saint-Germain que Manchester City, menacés d'être sortis de la compétition phare qu'est la Ligue des Champions. Après, alors on appelle plus ça la phase de groupe, mais après la première partie et surtout avant les matchs à élimination directe. Ces deux clubs, figurent de proue du football moderne, business comme on dit, soutenu par des capitaux de la péninsule arabique qui semblent toujours ou presque inépuisables. Ils sont en bas de classement européen, 26e place pour le Paris Saint-Germain depuis hier soir, 24e pour Manchester City, et ils se battent pour rester justement les deux parmi ces 24. Autre point commun, il leur faut gagner donc ce soir des points précieux pour espérer disputer cette autre phase et celle des barrages, étonnamment. Les joueurs en sont conscients des deux côtés. Écoutons Bernardo Silva, l'un des attaquants des Citizens, interrogé dans Téléfoot ce week-end.
En Champions League, comme nous, ils sont dans une situation très difficile. Il faut faire des points. Il y a deux matchs à jouer. Et nous, on a besoin de points pour nous mettre en position de play-off. Eux aussi, ça va être dur pour les deux équipes. Mais on va essayer de gagner parce qu'on a très besoin de gagner ces matchs pour être bien qualifiés. Une équipe très, très jeune. Quand tu es très jeune, parfois, tu n'es pas aussi consistant. Mais si tu as un jour, un très bon jour, c'est pas facile de jouer contre eux. Alors, on ne sait pas très bien quoi espérer du PSG. On sait qu'avec Luis Enrique, c'est une équipe qui travaille beaucoup. C'est une équipe avec beaucoup d'énergie. Je pense que ça va être un match avec beaucoup d'intensité parce que les deux équipes ont besoin de gagner.
Ses adversaires se connaissent bien, ils se jaugent souvent, ils se rencontrent aussi régulièrement. Bernardo Silva parle des jeunes, évidemment, du Paris Saint-Germain, qui peuvent ne pas être aussi consistants, il le dit, c'est lui hein, qui le dit. Cédric, quel visage ce soir, ce PSG, contre cette équipe de Manchester City, championne d'Angleterre en titre en tout cas, et qui n'allait pas si bien que ça ces derniers temps, mais le Paris Saint-Germain doit-il se fier à ça ?
On va dire aux récentes contre-performances, en tout cas. C'est toujours relatif avec Manchester City parce qu'effectivement, c'est pas la meilleure saison depuis que Pep Guardiola est là. Mais ils sont capables de gagner 6-0 en championnat ce week-end. Et puis, c'est une équipe qui a, en tout cas, en talent intrinsèque, un peu plus de talent que le Paris Saint-Germain. Et qui a aussi peut-être un petit avantage psychologique. Le PSG a quand même pas montré grand-chose de très consistant en Ligue des Champions, et notamment Arsenal contre le Bayern Munich. Il y a eu une défaite aussi contre...
Un incroyable manque d'efficacité.
Mais il y a aussi une défaite contre l'Atlético de Madrid. Ça donne pas confiance, en tout cas, dans les grands rendez-vous. Et c'est peut-être ça, en fait, qui est le gros point noir de ce Paris Saint-Germain. Il faut vraiment que le PSG, là... en tout cas, se transcende, en tout cas, change un petit peu son fusil d'épaule sur un match de Ligue des Champions et nous fasse, comprendre qu'il faudra compter avec eux cette saison.
Ludovic, on se souvient que le Paris Saint-Germain, quand ils battent le rappel un peu des supporters comme ça, c'est un signe peut-être de fébrilité, mais on se souvient de rendez-vous passés et carrément ratés. Je pense à un contre le Real Madrid, si je ne me trompe pas, et un aussi contre le Barça, où ils espéraient renverser la vapeur d'un match aller difficile à l'aller, et ça c'était pas du tout passé. On a l'impression que même au Parc des Princes, et d'autant plus en ce moment, il n'est pas si souverain que ça, ce Paris Saint-Germain.
Non, après, quid des supporters ou encore de Manchester City, c'est surtout les Parisiens qui vont devoir élever leur niveau de jeu. Parce qu'on a vu cette saison, Ligue des Champions est totalement insuffisant. Donc, ils seront obligés de faire mieux. La seule bonne nouvelle, c'est qu'ils jouent quand même à domicile, parce qu'on a vu qu'à l'extérieur, se sont vraiment fait marcher dessus Arsenal. Ça a été extrêmement compliqué au Bayern. Ils n'ont pas réussi à battre le PSV Eindhoven. Ça leur manque. Ces deux points-là vont peut-être leur manquer cruellement. Mais moi, je suis très inquiet parce que les derniers matchs contre Espagne, c'était une équipe d'amateurs, même à Lens, ça a été... ils ont joué 30 minutes. Donc,
c'était en Coupe de France.
Ouais, en Coupe de France, pardon. Donc, non, il va en falloir beaucoup plus. Bon, là, on a des retours importants avec Hakimi, avec Marquinhos et surtout Ousmane Dembélé, qui est vraiment l'élément clé de cette équipe, qui doit être là pour que Paris réalise des miracles.
Il est dans un moment où il marque.
Après, ça dépendra de la composition magique de Luis Enrique, parce que Neves se retrouve latéral gauche, si Zaire Emery est dans les buts,
vous appelez ça magique,
Donnarumma joue avant-centre.
Les compositions.
Oui, et si Lee, ce qui est son joueur préféré, continue d'être aligné en faux avant-centre, alors que lui, je le dis, et pardon, je n'ai rien contre lui, mais je pense qu'il n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. Ça dépendra aussi de cette composition d'équipe, parce que je pense que les joueurs, le talent, il y est à Paris, mais les compositions de Luis Enrique sont vraiment catastrophiques.
Contre Lens, là, il y avait plus de la moitié des joueurs du 11 qui n'étaient pas à son poste, on va dire, traditionnel. Ouais. Il est comme ça, Luis Enrique, il tente des choses.
Ça, il adore.
Manu Teladios, comment vous voyez cette équipe parisienne ? Alors, rappelons un peu les statistiques. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent face à cette équipe de Manchester City. Ils ont enregistré une victoire en 6 matchs. C'était phase de groupe à l'époque. Et c'était une victoire en 2021. Par contre, ils ont 4 défaites, puisqu'il y a 4 victoires au crédit de Manchester City.
Je ne suis pas du tout optimiste, ni pour ces matchs, ni pour Stuttgart. Je vois compliqué en fait que les PSG continuent. Avec Luis Enrique, pour finir avec la dernière conversation, on sait toujours comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça va finir, l'once titulaire. On voit au début du match.
Même quand ça commence, on a du mal à le savoir. Ouais. Parce que...
mais PSG.
Il y a plein de faux 9, faux 8, faux 7 avec lui.
On ne peut pas deviner la compo qu'il va faire, c'est impossible.
Même des fois, on me demande en Espagne, mais quand ils vont jouer, tu dis comme ça. Je dis non, mais en fait, il y a Zaïd Emery qui est arrière droite. Ah, ok, oui, c'est vrai. Bon. En tout cas, non, j'y vois. Pas mal pas mal d'handicaps pour les PSG. Déjà, un qui est toujours évoqué ici, c'est la différence de niveau entre Ligue 1 et les championnats européens. Et ça n'aide pas du tout, l'effet de dominer les championnats nationaux comme ils le font. Et puis, je trouve qu'ils sont aussi la manque d'expérience, des joueurs trop jeunes, mais des problèmes dans les deux surfaces de réparation, pour marquer des buts, mais aussi en défense. Pour marquer il faut voir aussi les derniers matchs. Soit ils sont gagnés parce qu'ils sont marqués lors des dernières minutes, ou quand même ils sont risqués de se faire égaliser les dernières minutes, comme c'était face à Saint-Etienne. Bah, Espaly, c'est une équipe nationale 3, c'est la 5e division quand même. Ils sont presque allés au tir au but. Donc, ils ont des difficultés pour marquer, même si on voit que ça commence à être un peu corrigé, mais surtout en défense.
Même Barcola marque, alors. Ouais,
ils sont finis. Ils sont encaissés des buts. Ils ont pris au moins un but 6 de ces derniers matchs. Donc, pour moi, c'est un handicap. Quand toi, quelqu'un comme Haaland en face, je crois que ça aussi va être très problématique.
Alors, ça va être simple pour vous, Bruno. Ah,
j'ai l'impression que le PSG va prendre 4-0 ce soir. Vous tous vous écoutez, là.
Et vous y croyez pas?
Bah, pas du tout.
Non. Alors, dites-nous.
Est-ce que vous sentez beaucoup plus bas.
Est-ce que vous sentez un City inquiet en dépit du jeu, des déclarations et des derniers résultats? Est-ce qu'ils sont méfiants? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils savent qu'ils jouent gros eux aussi ce soir pour la suite?
Ils jouent gros, oui, comme le PSG, parce qu'ils sont au bord aussi de l'élimination, même s'ils ont un point de plus, même si eux, leur dernier match de la phase de poule se joue à domicile face au club Bruges, qui est quand même un club inférieur. Mm-hmm. Donc, a priori, on peut parier sur ces trois points-là. Mais moi, je ne trouve pas que City soit flamboyant ou soit revenu à son meilleur niveau sur les derniers matchs, parce que quand on regarde les adversaires, oui, ils ont 4 victoires, 1 nul, mais c'était contre qui? C'était contre Leicester. C'était West Ham qui est en chute libre.
Everton,
Ipswich. C'était match nul.
Ipswich, ouais.
Mais c'était Ipswich qui est une équipe relégable pour l'instant. Mm. Donc, il n'y a pas de garantie que City va mieux.
Mais ils se rassurent quand même, les joueurs. Justement, Haaland qui n'avait pas marqué depuis longtemps.
Ils reprennent
Foden,
la confiance.
Paris n'a jamais 6-0 au championnat. Enfin, ça, si, ça arrivait une fois au championnat.
Ils ont combien de points d'avance en championnat? Ils surclassent la Ligue 1, le PSG.
Ouais, mais il faut comparer les équipes, les rivaux des Ligue 1.
Monaco vient de battre Aston Villa.
Ouais, mais
on a
général,
un exemple sous les yeux. Lille n'a pas été ridicule à Liverpool. Lille est qualifié déjà.
On ne va pas dire que la Ligue 1 est plus puissante que la Première Ligue.
Mais on ne dit pas ça. Moi, je dis juste que je ne suis pas sûr qu'il y ait une énorme différence, une classe d'écart.
Je trouve que
le PSG, aujourd'hui, en tout cas sur les dernières semaines, apporte plus de cohérence et de garantie que City. City, oui, ils ont battu 6-0 Ipswich. Mais Ipswich, c'est un petit poussin de la Première Ligue.
Ils sont dû attendre les dernières minutes pour gagner les derniers matchs.
Le dernier match à Lens, c'est un match particulier. Il fait tourner son effectif.
Sauf les matchs, leur poste, ils ont gagné.
Exactement. Ça a tout changé. Ça a métamorphosé l'équipe. Il est en train de gérer, comme Guardiola a un peu géré son effectif contre Ipswich à l'heure de jeu. Il sort ses 3 stars parce qu'il sait qu'il y a le match du PSG et que le plus important, c'est le PSG. Là, il y a... Moi, je pense que c'est une équipe qui est dans plein doute, c'est City, qui est en train de se redresser un tout petit peu. Les stars, effectivement, ont marqué, ont été décisives, donc ça rapporte de la confiance, et la confiance, ça permet de mieux jouer. Mais défensivement, ils ont les mêmes lacunes, les mêmes problèmes, les mêmes carences. Et ce PSG-là, il a les armes pour faire mal à City. City, quand ils ont 40 mètres dans leur dos, ils sont en extrême danger. La vitesse de Barcola, la vitesse d'Ousmane Dembélé, ça peut faire très mal à City.
Mais est-ce que ça va arriver? Encore faut-il être efficace devant
lui. Voilà, c'est ça. C'est rapide, mais maladroit.
C'est valable pour toutes les équipes.
Ouais, mais ce qui est un vrai problème pour Paris cette année, et spécialement en Ligue des Champions.
Ouais. Moi, je rejoins Bruno sur le talent. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a suffisamment de talent dans cette équipe parisienne. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que on voit pas les mêmes prestations en Ligue 1 qu'on voit en Ligue des Champions. Et je suis pas sûr, moi, que ça
a
un rapport à voir avec le niveau de la Ligue 1. Je pense que Paris a beaucoup déjoué, a s'est procuré une tonne d'occasions en Ligue des Champions et n'a pas su marquer. Voilà, je pense qu'il y a des postes qui sont abandonnés. Et ça, c'est dû à la tactique de Luis Enrique.
Cédric, on a beaucoup parlé les temps en passé du problème mental du Paris Saint-Germain. On avait vu que l'année dernière, ils avaient eu du mal à sortir de la phase de groupe, mais ils avaient été un peu aidés, ils en étaient sortis, ils étaient allés jusqu'en demi-finale. Mmh. Est-ce que ce soir, on peut un peu bannir cette conception du mental faible de cette équipe un peu qui refuse l'obstacle ou qui en a peur?
C'est pas ça, mais c'est un peu particulier cette année parce que le club, c'est presque comme si le club, depuis le début de la saison, nous avait préparé au fait que, pour une fois, la Ligue des Champions n'était pas la priorité.
Et il fallait les croire.
Parce que maintenant, il n'y avait plus de Kylian Mbappé, il n'y avait plus de Lionel Messi, il n'y avait plus Neymar. Alors, c'est vrai qu'ils ont
quand même. Ils devaient être plus forts que l'année dernière.
Ils viennent d'investir 70 millions d'euros sur un joueur, donc a priori, il y a quand même.
Qui ne jouera pas ce soir.
Qui ne jouera pas, effectivement, qui jouera potentiellement
en
play-off, en barrage, appelez-les comme vous voulez. Mais c'est un peu le discours, et notamment de Luis Enrique. c'est on prépare déjà le fait que éventuellement,
et ça, c'est une préparation mentale.
Ça ne passera pas. Je ne sais pas si c'est une préparation mentale, mais en tout cas, ça veut dire que ce ne serait pas un cataclysme de ne pas franchir ce premier tour. Mais ça serait quand même une énorme déception pour tous les observateurs et les suiveurs que nous sommes. Ou en tout cas, ce ne serait pas au niveau que ce Paris Saint-Germain passe.
Même si, je crois que ces 8 dernières années, si j'ai bien lu, 5 fois le PSG a été éliminé en 8e de finale. Oui. C'est-à-dire juste l'étape d'après.
Oui, mais au moins, vous passez les poules. Ça n'est jamais arrivé depuis l'époque qatari que Paris ne franchisse pas ses poules.
Une poule différente aussi.
Paris n'est pas obligé de se qualifier. Mais là, on se moque de qui? Évidemment que ce n'est pas la vérité. Évidemment qu'ils se moquent de nous. Le Paris Saint-Germain doit absolument continuer en Ligue des Champions, doit aller le plus loin possible. Ils viennent de prendre l'un des meilleurs joueurs européens. Enfin, pour moi, c'est un joueur Xvarak Svelia. On va avoir du mal à le dire.
Il va falloir travailler un petit peu.
Xvarak Svelia.
Un géorgien.
On va demander à Ouli Sagnol. Je le parle pas très bien, j'avoue. Bon, en tout cas, voilà. Lui, c'est vraiment un joueur d'avenir. Et personne ne croit à ce message. Et moi, je crois que c'est encore une formidable erreur de communication de tout l'établissement du Paris Saint-Germain de nous faire croire que, finalement, d'ailleurs, on arrive à ce match. C'est vrai qu'on n'en a pratiquement pas parlé. Il y a eu Lens, Non, ils veulent pas en parler. Ils veulent pas nous dire que c'est important. Mais je pense qu'ils ont tout faux.
Mais du coup, ça rejoint, et c'est ce qui est pour expliquer ce que Bruno, tu disais tout à l'heure. On a l'impression que Paris va prendre 4-0, mais c'est un peu se mettre dans la position de l'outsider.
Je suis pas d'accord, parce que dans le jeu, au contraire, le jeu de Luis Enrique, il prend des initiatives, il prend ses responsabilités, il prend le jeu à son compte. C'est pas une petite équipe dans le jeu. C'est une équipe qui veut la possession, qui veut dominer. Sauf qu'elle le fait aujourd'hui avec une équipe qui a été extrêmement rajeunie, qui a perdu toutes ses stars, qui a perdu ses joueurs stars.
Qui a voulu,
mais je pense que... Pas forcément.
Ils n'ont acheté personne.
Mbappé, fin de contrat, ouais,
mais ils n'ont pas acheté des joueurs expérimentés.
Il faut compter aussi sur l'effet qu'il y a un nouveau cycle. Et pas si attractif qu'il y a 2-3 années. Hein.
Non, bien sûr. Et puis mettre pas en valeur quelqu'un comme Ruiz, qui a fait un excellent euro. En tout cas, un face-à-face intéressant. Et alors, vous étiez très, très ironique et très railleur, Ludovic, sur ces deux entraîneurs. Parce que c'est deux hommes qui se connaissent très bien. Ils ont en commun, bien sûr, le FC Barcelone, pour y avoir joué, pour l'avoir entraîné. Et il y a une admiration mutuelle. Alors, ils se sont amusés hier à se déclarer leur flamme. Pep Guardiola répondant à Luis Enrique, que vous écoutez.
Ce sera un match spécial contre Manchester City, car il sera crucial pour les deux équipes. Mais aussi parce que je vais voir un ami avec qui j'ai partagé de nombreuses années en tant que joueur et aussi en tant qu'entraîneur quand nous étions ensemble à Barcelone. Je suis heureux de revoir Pep à nouveau. C'est le coach qui a géré à la perfection le système en 4-3-3 avec Barcelone. C'est le numéro 1, une référence et un entraîneur unique. J'ai beaucoup de chance d'être son ami et d'avoir été son coéquipier. Il a lancé une manière très différente de jouer au football en Angleterre. Et c'est un succès.
Luis a été un joueur du FC Barcelone. Et peu importe la façon dont il fait jouer l'équipe, lui a toujours été meilleur que n'importe qui. Alors les gens jugent. Très bien, il faut avancer et accepter ça. Si on ne supporte pas la critique, il faut faire un autre métier. Nous sommes là pour accepter ça et avancer. Ce que j'ai vu moi des derniers matchs du PSG, eh bien j'adore. Nous étions aussi amis à Barcelone et nos familles sont très proches. C'est une amitié qui sera éternelle. Ce sera pour toujours.
Forever, je l'aime pour toujours. Il le dit en anglais, mais para siempre, hein, il pourrait le dire aussi. Peut-on parler d'entraîneurs comparables, alors en dehors de leur déclaration mutuelle, sur leur entêtement dans leur schéma de jeu, Manu Terradios?
Je crois que Luis Enrique déjà
peut-être
cherche
que c'est ça qui fait qu'il s'admire.
Non, je crois qu'à la base, oui, à la base, tout au début, les types de foot qu'ils voulaient proposer, les schémas, la façon de jouer. Après, Luis Enrique, je crois qu'il essaye de développer un système un peu plus compliqué, la façon comme tous les mondes.
Il a l'air
change,
plus compliqué, dans ses propos déjà.
C'est ça qu'on comprend pas.
Après, on parlait ici, pendant qu'on écoutait les déclarations, on a l'impression que c'est le seul à qui il admire un peu ou qu'il respecte. Je crois aussi Ancelotti, mais que c'est quelqu'un, pour moi, Luis Enrique, ou Pep Guardiola, c'est quelqu'un que Luis Enrique pense vraiment qu'il a les niveaux, qui est au-dessous de lui, qui est un grand entraîneur. Donc, je crois qu'il y a des points qu'on peut comparer, mais aussi, si on voit aussi la carrière, je crois qu'ils ne sont pas complètement comparables.
Ah bah ça non.
Et la différence, Annie, je pense, c'est que, et alors Bruno me confirmera, c'est que Pep Guardiola aujourd'hui arrive à faire des choses un peu différentes de la philosophie du Barça, dont ils ont tous beaucoup de mal à se détacher. Mais j'ai l'impression que sur les derniers matchs, on a vu un jeu plus direct, on a vu que le Manchester City acceptait de ne pas avoir 70% de possession de ballon, alors que Luis Enrique n'est pas capable de faire cet effort. Il n'est pas capable de changer, d'évoluer et de tactiquement de faire autre chose que ce qu'il a toujours fait en fait.
Je crois que Guardiola, il a découvert que tu peux t'adapter aux joueurs que toi, tant que Luis Enrique, un peu c'est à l'inverse. C'est les joueurs qui doivent s'adapter voilà, à mon système.
C'est pour ça qu'ils gardent des jeunes qui sont un peu malléables.
Ça n'a pas toujours été le cas de Guardiola. Hein. Guardiola, pendant longtemps, Barça, Bayern, c'était une philosophie très dogmatique où c'était les joueurs qui s'adaptaient à son système.
Oui, mais j'ai dit dernièrement.
Quand il est arrivé à City, quand il est arrivé à City, la première saison à City, c'est un échec. Parce qu'il se prend en pleine figure la première ligue où il y a les deuxièmes ballons, où il y a l'impact physique, où il est en train de changer un peu sa façon de voir le jeu.
Ouais, et il a évolué. Quelle adaptation !
Oui, mais il a évolué.
Il a évolué. Il a 6 titres de champion d'Angleterre.
Oui, mais il avait, avec des footballs très différents. Il y avait des footballs qui étaient très directs, où il jouait de son gardien directement à son attaquant.
Il a donné, il a quand même donné un style à cette équipe de Manchester City. Il a donné quelque chose.
Pour moi, le début de City, de ses débuts à City, ça ressemble un peu à Barcelone et au Bayern. Mais depuis 4-5 ans, c'est plus du tout le Barça.
Il a pris à Londres.
Il s'est adapté à ses joueurs, il a pris à Londres, il a dû s'adapter à Londres.
Il est capable de faire évoluer des John Stones, de changer de poste.
Il a influencé plein d'entraîneurs pour moi. C'est celui qui a influencé le plus le football.
Oui,
quand il joue avec 4 axiaux, 4 centraux en défense, quand il fait rentrer un latéral en milieu de terrain, quand il fait rentrer un défenseur central au milieu de terrain, il a fait plein d'évolutions dans le football. Et c'est quelqu'un qui teste, qui essaie beaucoup. Et c'est vrai que Luis Enrique.
C'est exactement le même qu'avec l'Espagne.
Est très têtu dans ce qu'il veut faire. Mais peut-être parce qu'il a un avancement différent
d'entraîneur.
Bon, en tout cas, Cédric, il faut vous attendre alors à des compos assez peut-être surprenants tout à l'heure au parc.
Non, mais c'est journalistiquement, c'est aussi intéressant parce que c'est vrai qu'on a du mal parfois. Alors évidemment, il y a des impondérables, mais c'est vrai que là, il y aura sans doute des choses
une heure avant le coup d'envoi, déjà, vous êtes dans l'ambiance.
Essayez de vérifier un petit peu comment ces deux entraîneurs vont jouer. Ouais.
En tout cas, alors, deux clubs hein, au bord du gouffre. Deuxième mi-temps à suivre sur RFI tout à l'heure dans Radio Foot. Et grâce à vous, Cédric, vous serez
grâce à vous aussi,
dans, les rangs, dans les rangs du PSG. Et on sera tous là avec aussi Patrick Juillard et Nabil Djellit. Merci beaucoup. On vous laisse partir vers le Parc des Princes. Merci beaucoup. On continue dans Radio Foot dans cette soirée Ligue des Champions. On va passer un peu vite parce qu'ils rentrent sur le terrain dans une heure et 15 minutes, on va dire. Mais ce sont les Brestois, déjà assurés, eux, de disputer le prochain tour, alors que ce soit des 8e ou 16e, hein, c'est-à-dire des barrages. Ils joueront dans quelques instants contre le club ukrainien du Shakhtar Donetsk. Alors, vous le savez, club ukrainien, ils ne jouent plus en Ukraine depuis bien longtemps. Leurs installations ont été pilonnées en 2014. Et c'est un match disputé en Allemagne, à Gelsenkirchen, je crois que je le dis.
Gelsenkirchen.
Hein, c'est ça, ça se dit à peu près comme ça. En tout cas, le stade brestois va-t-il encore nous surprendre ce soir, selon vous, Ludovic?
Oui, moi j'ai envie de dire oui, parce qu'ils sont sur une dynamique, ils viennent de gagner à Rennes.
On se retrouve avec quand même Brest 9e. Les autres, 28e, hein, c'est-à-dire ils sont hors concours pour l'instant.
Non, puis les autres n'ont plus joué depuis, alors pour les raisons que tu as dit, Annie, n'ont plus joué depuis le 15 décembre. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai bon coup à jouer pour Brest. Après, ils vont jouer le Real Madrid, donc vaut mieux qu'ils prennent les 3 points ce soir. Mais avec 16 points, ils ont des chances d'être dans les 8. C'est pas sûr et certain, mais il y aura vraiment des chances. Et je pense que sur leur dynamique, sur leur envie, ils se sont pris au jeu. Et pour eux, ne pas jouer les deux matchs de barrage, ce serait très important également, parce qu'ils n'ont pas un effectif non plus indéfini.
Oui, avec les pauvres.
Ça reste un petit budget, hein, Brest. Avec les Ayork, avec les Camara, avec les Lala. Allons-y, moi je pense qu'ils sont, capables, avec Bizot qui est un très bon gardien, ils sont capables de battre cette équipe, ouais, je pense.
On verra ça donc ce soir et avec enthousiasme dans une heure et quart à peu près sera donné le coup d'envoi en Allemagne. Passons un gros, quand même, gros poisson de la soirée et que lui, on attend aussi tellement. Ce sont les Merengues, évidemment, en meilleure forme ces temps-ci. Ils ont repris la tête de la Liga au cours du week-end et ils veulent aussi grappiller des places au classement européen quand même. Leur classement 22e hein, ne les satisfait pas outre mesure. Alors c'est l'occasion devant leur public, face en plus au RB Salzbourg. Alors les pauvres, ils accumulent les buts, ils en ont encaissé 15 en 6 matchs. Ils sont 33e au classement. Et en plus, dans les rangs meringués, eh bien, un nouveau Kylian Mbappé qui s'est présenté devant la presse d'ailleurs hier et qui semble bien plus serein.
Quand tu joues bien, les gens parlent de toi en bien, et quand tu joues mal, ils disent du mal. On le sait. Il faut toujours rester calme et se concentrer sur ton jeu, sur ce que tu peux améliorer. En fin de compte, je savais que je pouvais changer cette situation. C'est ce que j'ai fait lors des derniers matchs et j'en suis très heureux. Je pense que c'était plus mental, car physiquement, je me sentais bien et bien intégré dans l'équipe. Mais à un moment donné, je devais en faire plus. Et puis je crois que je réfléchissais trop sur le terrain. Je me demandais comment bouger, me déplacer, si je pouvais aller dans la zone de Vinicius ou de Rodrigo sans qu'on se marche sur les pieds. Et quand tu penses trop, tu ne joues pas bien. J'ai arrêté de trop réfléchir et maintenant, ça va beaucoup mieux.
C'est lo pasa bien. Bon, Kylian Mbappé retrouve son niveau, on va dire, et c'est au meilleur moment pour le Real Madrid. Il ne cesse, ces derniers matchs, d'avoir son rôle, de les aider, même au soir de cette claque face au FC Barcelone, hein, cet autre classico en finale de la Supercoupe d'Espagne. Mais là, c'est le bon moment pour Madrid pour montrer que c'est des champions d'Europe sortants.
Oui, en plus, ils sont deux matchs, théoriquement, et je vais dire théoriquement, facile, parce qu'on s'en souvient de ce qui s'est passé face à Lille. Et, donc, je crois que c'est les bons moments pour essayer d'enchaîner des victoires.
Là, Salzbourg risque de passer une mauvaise soirée.
Voilà, je crois. C'est un très bon moment de la saison. C'est vrai qu'il y a la catastrophe, parce que la défaite, c'était catastrophique face à Barcelone, la finale de Trophée des Champions espagnols.
5-2.
Même si là-bas, lors de ces matchs, Kylian Mbappé, pour moi, il était bon. Il avait marqué, il avait provoqué un carton rouge. C'est un Kylian Mbappé qui est aussi au meilleur moment de sa saison avec le haut. C'est son meilleur moment depuis qu'il est arrivé chez le Real Madrid. Même les derniers matchs, il a marqué un but de pénalty. On s'en souvient aussi de ce qui s'est passé.
C'est important.
Donc, on voit quand il parle qu'il est optimiste, qu'il se sent beaucoup plus confortable. Et c'est vrai que les derniers matchs, il n'avait pas Vinicius. Ça peut-être l'a libéré un petit peu. On disait même si, maintenant, peut-être la solution, c'est Rodrigo Ibrahim et pas de Vinicius, mais je crois que c'était plutôt pour rigoler.
L'ensemble du Real va mieux dans son ensemble, les autres joueurs aussi, même si la défense, c'est sans doute
le point. Je crois que c'est les grands problèmes. L'attaque, il faut pas trop réfléchir. L'attaque, il est bon, il se marque des buts. Ils sont marqués, je sais pas combien, plus de 10 matchs, ils sont marqués au moins 2 buts d'affilée, même quand ils sont perdus.
Et même les remplaçants sont bons en attaque.
Ibrahim, il est à un niveau magnifique. Hendrick a marqué aussi.
Le petit Hendrick brésilien.
J'avais 11 matchs où ils sont marqués 2 ou plus buts d'affilée.
Par match.
C'était la défaite face à Barcelone en Ligue 4-0 la dernière fois. Donc ça
remonte un petit peu.
Ouais. mais les problèmes, c'est ça, c'est la défense. En plus, avec un entraîneur Ancelotti qui est très bon, mais qui a cette habitude de faire jouer les joueurs expérimentés, qui ne fait pas trop confiance aux jeunes. Du coup, quand il y a un problème en défense, il fait jouer plutôt Tchouaméni, qui déjà cette saison, il n'était pas si fort. Mais quand il a fait jouer comme défenseur central, c'est encore pire. Il ne fait pas de confiance à Asensio. Ce soir... probablement, on verra Valverde comme arrière droite. Donc,
qui s'est marqué de loin, lui.
Ouais, ça aussi. Mais bon, tu vois, quand tu les fais jouer comme défenseur, forcément, tu auras moins d'occasions de deuxième balle. Donc, c'est les grands problèmes, ça. C'est clair, ils sont capables de les marquer. Par contre...
Par contre,
au niveau défensif, c'est où il y a tous les problèmes.
Oui. Bruno, c'est peut-être ça qu'on attend aussi, voir enfin. Alors certes, l'adversaire peut prêter peut-être à une belle démonstration, mais en tout cas, on attend quand même quelque chose de plus du Real sur la scène européenne. Actuellement.
Parce que quand on regarde le classement, au final, ils n'ont qu'un point de plus que City, que 2 points de plus que le PSG. Donc au final, ils ne font pas une meilleure campagne de Ligue des Champions que ces deux équipes-là.
Vraiment,
mais c'est un peu logique aussi, parce que l'arrivée d'Mbappé, ça bouscule les équilibres, le départ de Toni Kroos, très important.
Bien sûr.
C'est toute une équipe quelque part à reconstruire, ou un équilibre à reconstruire, et ça a mis un peu de temps. Moi, je constate que quand ils ne jouent pas le Barça, ça va finalement, ils s'en sortent plutôt bien. Le Barça, c'est un autre niveau. Moi, j'ai des doutes sur le Real Madrid face au très 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 haut niveau. Est-ce qu'ils sont bons contre les équipes comme Liverpool, comme l'Inter Milan?
Ils sont moins
compétitifs que l'année. Ils sont trop déséquilibrés pour être au niveau attendu de remporter Ligue des Champions. Mais on n'est qu'au mois de janvier. Donc cette équipe, plus les mois vont passer, plus elle va...
Ouais, comme tous les ans.
Mais au-delà de tous les ans, c'est surtout qu'ils apprennent à se connaître. Mbappé... Ouais. même si on le voit jouer, si ses nouveaux coéquipiers l'ont vu jouer au PSG, quand tu joues avec lui, c'est différent quand même. T'apprends à ses déplacements, c'est quelqu'un qui aime bien être servi très vite. Donc c'est un jeu plus vertical.
On sent bien quand même qu'il y a eu d'autres exemples dans l'histoire de grands joueurs qui sont arrivés au Real et qui ont mis un certain temps. Alors avant, peut-être que le temps était un peu plus tolérant, on va dire. On attendait un peu plus qu'ils s'adaptent. Maintenant, il faudrait qu'ils arrivent et que le lendemain...
Le problème, c'est pas tant lui, son positionnement, finalement.
Non, c'est
surtout
l'ensemble.
Comment réorganiser toute l'équipe avec lui devant. Et ça, pour l'instant, ils n'ont pas la solution, moi, je trouve.
Et avec beaucoup de blessés. Il continue à jouer comme neuf quand même, maintenant, il marque beaucoup plus.
Bien sûr.
Mais avec ces joueurs-là, c'est quand même plus
facile. Et avec beaucoup de blessés, parce que, justement, Militao, en défense, Militao est à la barre aussi. Donc, c'est quand même... Il y a aussi ces problèmes-là qui se sont ajoutés.
Moi, je crois que sur les derniers matchs, Mbappé a pris les clés. On sait tous les problèmes qu'il a eu au Paris Saint-Germain. Je pense qu'en France, on les a beaucoup minimisés. Donc, il le dit lui-même. Il vient de leur dire que c'était mental et moins physique. Donc, il fallait l'entendre et on pouvait le deviner. Certains ont fait semblant de ne pas le comprendre. Mais je pense qu'évidemment que c'était mental. Aujourd'hui, il a retrouvé toutes ses facultés. Et il y a un temps d'assimilation. Il a compris ce qu'était le Real Madrid.
Il s'est aussi remis en question. Il l'avoue à demi-mot.
Peut-être.
Il a dit qu'il fallait qu'il pense différemment.
Quand tu parles du Barça,
et qu'il se bouscule un peu plus.
Bruno, quand tu parles du Barça, je suis pas d'accord avec toi.
Lui qui se remet un peu plus en question.
Je pense que
son jeu.
Les deux défaites du Barça, c'est l'histoire d'un match. En championnat, ils ont 7 points d'avance, le Real. Moi, je suis pas du tout inquiet sur les grands matchs qu'ils vont jouer à l'avenir. Je pense qu'encore une fois, ils seront là pour les huitièmes, les quarts, les demi, et peut-être aller jusqu'au bout. Après, ils peuvent pas. Ils vont pas non plus gagner tous les ans la Ligue des Champions. Mais je pense que ça y est, Mbappé a pris les clés. Et je pense qu'à Madrid, tout le monde est content de ça. Tout le monde voit que ça y est, contre Las Palmas, on a dit ça y est, c'est le meilleur avant-centre du monde, etc. Oui, ça fait partie du meilleur joueur du monde. Et oui, il a un talent fou. On en a même douté en France, que je trouve complètement fou. Mais
on
ça
commence
a été comme
à le revoir,
ça.
Donc.
On commence à le... Et il est là. Bah, il est très important. Il est omniprésent maintenant, aujourd'hui, au Real Madrid. Et il parle beaucoup en plus dans cette équipe.
Oui.
C'est vrai.
Il commence à prendre un peu cette pose des leaders. Mais aussi des leaders. Tu vois comme l'équipe commence à les chercher. C'est vrai que les derniers matchs, je disais, il n'y avait pas Vinicius. Mais l'équipe commence à les chercher. Même Rodrigo, Brahim, quoi qu'il en soit. Et c'est un peu pour ajouter une chose, parce qu'on avait parlé du départ de Toni Kroos. Il faut voir que c'était si important, parce que c'est Ceballos, que si on pense au début de la saison, ça serait le sixième milieu de terrain du Real Madrid. Donc, loin d'être titulaire, il est devenu clé. Et il commence à jouer parce que c'est les joueurs les plus proches. On ne va pas dire que c'est le même. Il est loin du talent de l'Allemand.
Dans le même registre, oui.
Mais il a les mêmes registres. Ouais. Il, petit à petit, peut-être il sera titulaire aujourd'hui.
Être en confiance lui aussi, quoi.
Oui, mais parce que c'est un joueur qui propose, c'est qui propose ses crosses.
Bien sûr. En tout cas, nous y reviendrons bien sûr dans la soirée, dans la deuxième édition de Radio Foot. On a parlé du Real qui joue ce soir, mais hier soir, c'est le Barça qui jouait.
Au total, et une remontada complètement folle, complètement dingue du FC Barcelone qui gagne 5-4 dans les toutes dernières secondes. Merci les acteurs pour cette soirée d'anthologie.
Et oui, il y a une pluie de buts dans les divers matchs hier soir, un peu partout en Europe, et près d'une trentaine donc sur l'ensemble de la soirée. Rien qu'à Lisbonne, à Estadio da Luz, vous l'avez entendu, cette cascade inarrêtable. Score final donc 5-4, 9 buts dans la soirée. Le FC Barcelone a coiffé sur le poteau donc ce Benfica qui a un peu joué au lièvre de La Fontaine quand même. Il croyait qu'il avait gagné. Ben non, la tortue était bien là, comme dans les histoires. Parce que c'est Blaugrana, ils ont été menés 3-1, 4-2. Et puis tout d'un coup, ils sont revenus. Et la dernière action, donc signée de l'homme du match, c'est le Blaugrana brésilien, Rafinha. Écoutons-le.
Nous savions que ce serait un match compliqué. C'est difficile ici devant les supporters de Benfica. C'est une équipe qui joue très bien, qui défend très bien avec des joueurs de très haut niveau. On était mené 3-1 à la mi-temps, mais on n'a pas voulu baisser les bras. On est revenu sur le terrain concentré pour essayer de changer le cours du match. Et ce fut une rencontre incroyable pour les acteurs comme pour les spectateurs. Les deux équipes pouvaient remporter la victoire, mais je suis très content qu'on ait gagné.
Bien que fait nous.
Alors, on peut dire un match de fou, du spectacle, du suspense, peut-être un léger favoritisme de l'arbitrage. D'habitude, on dit que c'est le Real qui est favorisé. Là, on a eu l'impression qu'il y a eu des... Ne serait-ce que sur le pénalty dont bénéficie le FC Barcelone et Yamal.
Oui, mais je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce qu'il y a aussi, si tu vois la presse des Barcelones, ils se sont plaints aussi des actions des Benfica. Je crois que les matchs, on a vu les Barcelones de cette saison, c'est une équipe qui est encore qui n'est pas complètement confiante, donc c'est pour ça qu'ils se prennent des buts.
Étrange.
Mais qui marque et qui a un problème.
La première mi-temps était ratée, quoi.
Ouais, exactement, mais qui est. Et ils ont un problème d'efficacité, mais pas, on va dire, c'est pas une question des régularités de toute la saison, mais quelques matchs. Donc, on l'a vu en Ligue face à Getafe, ils ont fait match nul. Face à l'Atlético, c'était catastrophique. Ils ont perdu un match qu'ils auraient dû gagner facilement. Mais par contre, quand ils n'ont pas ce problème, ils arrivent à gagner très facilement, marquer des buts. Là, moi, je n'avais pas trop des doutes qu'ils allaient gagner, franchement, quand j'ai regardé les matchs.
Même quand ils étaient menés 3-1
parce que toi, la sensation, dès qu'ils sont capables de marquer, on l'a vu face à Madrid, ils sont marqués
des
buts.
De prendre des buts aussi. Hein. T'as la sensation
oui, voilà.
Que...
Et c'est ces petits matchs, surtout face aux équipes qui ne sont pas si forts comme Getafe et qu'ils n'arrivent pas à marquer, qui, je crois, qui fait qu'ils ont cette manque de confiance des fois. Qui prend des buts. Bon, Chesney, il a collaboré quand même avec Benfica hier.
Ah oui.
Mais
c'est une bonne idée.
Ouais, je crois que pour lui, c'est un peu la sentence
le
finale.
Le pauvre gardien polonais.
Il était pour moi arrivé pour prendre la place des Iñaki Peña, mais il n'y avait pas d'excuse pour écarter Peña. Et finalement, on dirait qu'il a trouvé une excuse pour laisser sur la touche Chesney. Mais je crois que c'est ces matchs où ils n'arrivent pas à gagner qui leur donnent cette manque de confiance, qui parfois se voit. Mais les joueurs qu'ils sont efficaces, ils se créent beaucoup, une tonne d'occasions.
Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'ils renversent le match dans les arrêts de jeu et sur une action de fou.
C'est surtout la dernière action qui résume pas mal le match, parce que je pense qu'il y a faute avant sur un joueur de Benfica. Finalement, on laisse jouer et sur le contre, ils vont marquer. Donc, c'était totalement ouvert, mais on avait déjà vu Benfica à Monaco. Le match était tellement ouvert également. C'est vraiment une équipe qui a c'est un football limite total. Donc, le Barça en a profité. Bah, devant, quand on a Yamal, Lewandowski, Rafinha, c'est fantastique. Donc, ça joue. C'est vrai que derrière, par contre, pour moi, c'est rédhibitoire. Je pense qu'ils ne peuvent pas gagner la Ligue des Champions avec une défense et un tel gardien. Pour moi, c'est la...
Oui, parce que Ter Stegen, là...
Oui, c'est la limite de cette équipe.
Je crois qu'il jouera plus en Ligue des Champions, t'inquiète.
Bruno, en tout cas, Rafinha, parlons un peu, parce que c'était l'homme du match.
Faites bien en parler.
On a l'impression de le redécouvrir, mais c'est... Alors, il est passé par le Sporting, mais porte d'entrée de l'Amérique du Sud, c'est un Brésilien. Pas après, il passe à Rennes. Bon, on s'en souvient à peine, parce qu'il est vite happé par l'Angleterre.
C'est plutôt un bon passage.
Bien sûr, mais il part très rapidement. Il reste une saison, c'est trop rapide. Et là, il était dans les mains d'un certain Marcelo Bielsa quand même. Et ça, on s'en souvient avec Leeds.
À Leeds, il fait un passage extraordinaire dans une équipe qui est flamboyante, qui était très déséquilibrée aussi, un petit peu comme ce match. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il tape dans l'œil de beaucoup de monde et beaucoup de monde s'intéresse à lui. Moi très honnêtement, il n'était pas au niveau qu'il est aujourd'hui.
Bah non.
Aujourd'hui, quand on parle par exemple du meilleur joueur du monde actuel, quand on dit Mo Salah, je suis d'accord, mais je trouve qu'on oublie beaucoup Rafinha. Parce que Rafinha, il est quand même impliqué sur 31 buts cette saison. Moi, je le trouve fantastique. Il est capitaine du Barça, c'est quelque chose que je ne soupçonnais pas. Et surtout, il prend une dimension. Son but, en toute fin de match, faire ce qu'il fait, l'appel, une course de 50 mètres, la lucidité de faire le crochet, d'ajuster.
Face au gardien, oui.
Franchement, au bout d'un match comme ça, là, c'est la marque des très grands. Donc après, c'est un match fou, difficile à analyser, où il s'est passé plein de choses. Moi, l'épisode Szczęsny me fait beaucoup rire, parce que... Il avait pris sa retraite, il passe des beaux jours, il coule des jours heureux sur la plage à Marbella, et puis on le rappelle pour jouer, il joue pas tout de suite.
Au début,
ça s'est bien passé en plus.
Et on le jette dans la fosse au Lyon en Ligue des Champions, comme ça, sans avoir joué un match de Liga.
Moi, je trouve que c'était hyper risqué. Il a failli vraiment son propre joueur.
Exactement.
Il a failli lui faire, mais il aurait pu terminer à l'hôpital, tellement c'était violent. Donc, non, je pense qu'à ce niveau-là, on voit les grandes équipes. Moi, t'es obligé d'avoir un grand gardien, et je pense que le Barça ne peut pas se satisfaire de ce joueur. Pardon, juste d'ajouter, le Paris Saint-Germain non plus, c'est encore une autre histoire, mais il faut un grand gardien. Sans grand gardien, il n'y a pas d'avenir.
En tout cas, ils seront là, le Barça, pour le tour prochain. Ils ont assuré leur nombre de points. À Madrid, au Metropolitano, là aussi, on a eu du spectacle. On l'avait prévu un peu dans cette émission hier. Le score a basculé au dernier moment, à la mode colchonero, bien sûr, Simeone, cruel comme à leur habitude, même si c'est aussi une habitude du Bayern. Le Bayern, ils aimaient bien crucifier, en tout cas toute la saison dernière, où ils n'ont jamais perdu, leurs adversaires. Là, ils ont été... ils ont pris un but et ils ont perdu sur le score de 2-1, ces joueurs du Bayer Leverkusen. Ça a quand même été un match un peu moche quand même sur le plan. Là, on a vu les joueurs défenseurs de l'Atlético sous l'angle Simeone dans toute leur superbe. Je pense à De Paul, je pense à tous ces
Mario
latinos.
Mario s'est fait éliminer, s'est fait exclure.
Oui, deux cartons rouges, un de chaque côté. Mais alors, un quand même à la 25e minute pour l'Atlético, tout à son honneur de l'emporter. Les autres, c'est à la 75e minute. Donc, c'était quand même un match... trop disputé, Manu ?
Oui, je crois que la sensation, surtout chez les supporters d'Atlético, la victoire, l'effervescence qu'ils ont senti à la fin du match au stade, l'euphorie qu'il y avait, cache un peu tout ça qui était les matchs. Donc, ils sont partis contents à la maison comme ils ont gagné. Enfin, c'est une spécialité, ils ont fait pareil face à Barcelone.
C'est un peu
ils
du sont catch,
fait,
là.
Hein. Face
au PSG. PSG, pareil. Ouais. Voilà. C'est un peu Simeone qui a... retrouver cette façon de jouer qui marchait bien. Ils avaient fait 15 victoires, je crois, d'affilée. Ils sont perdus après un match. Je m'en souviendrai après. Leganés, je crois que c'était.
Championnat, oui.
En championnat. Et donc, c'était un peu les styles Simeone. Et là, c'était 5 défenseurs. On l'avoue même en Coupe de Roi, face à une équipe semi-professionnelle. Donc, c'est pas toujours comme ça, mais là, c'était un peu comme ça. Donc, c'est un système qui marche. Puis, il fait confiance au talent qu'il y a à l'attaque pour on va dire, il aime bien arriver vivant les dernières minutes. Et puis, voir qu'est-ce qu'il peut faire.
Et là, c'est rien, ce qu'il
peut, c'est une force, Bruno. C'est une force de pouvoir de jamais être mort, d'avoir le sentiment de toujours pouvoir y croire,
renverser
et d'aller chercher
choses,
des victoires comme ça. Après, il a des joueurs offensifs qui sont aussi exceptionnels, parce que Griezmann en a déjà beaucoup parlé, mais Julian Alvarez.
Julian Alvarez, c'est
deux buts, c'est deux buts qui sont exceptionnels. Ah ben, on le regrette, hein. On le regrette, on comprend pas pourquoi ils l'ont lâché.
Il fallait faire jouer plus.
Lui, il avait envie de jouer plus, il y avait du monde qui arrivait, c'était difficile. Mais c'est un joueur génial et en plus qui correspond.
Et commence enfin entre Argentin et
parce qu'il faut un temps d'adaptation comme dans les grandes équipes où les entraîneurs qui ont une forte identité. Avec Simeone, c'est assez logique. Mais moi, je trouve qu'il colle parfaitement à l'identité de Diego Simeone. Et c'est quelqu'un qui harcèle, qui est agressif, qui presse, qui fait un travail monumental et qui a toujours cette lucidité derrière pour faire le geste juste. Et ces deux buts, ils sont magnifiques.
Mais le Bayern leur a mené la vie dure. Hein, parce que hier
c'est une belle équipe.
C'était extraordinaire. Ouais. Et ça a bien failli, d'ailleurs, au moins terminer en nul. Ils ont marqué des buts. Alors, beaucoup refusé sur des erreurs, évidemment, d'alignement.
Ça préparait que Xabi Alonso, s'il arrive au Real Madrid, comme ça, il est au courant. Et c'est
il était déjà à Madrid, en tout cas.
Après, imaginez les styles Alonso avec Mbappé, avec Vinicius. Hein, ça
serait pas mal.
Alexander Arnold.
Ça pourrait être spectaculaire. Les Monégasques, eux, ils avaient joué en début de soirée et ils remontent au classement et surtout, ils se rassurent. Ils sont 10e après leur victoire sur Aston Villa. Victoire 1-0, petit but, mais ils ont réussi à préserver l'avantage. C'est ce que raconte Wilfried Singo, l'Ivoirien de Monaco.
C'est un travail collectif, c'est pas que moi seul. C'est pas que moi seul, on a bien travaillé, on a bien défendu et à la fin, on a été récompensé. Franchement, je suis content du résultat qu'on a fait aujourd'hui. Et après, on va savourer cette victoire et penser au championnat qui vient.
Bah oui, alors d'abord, il vaut mieux savourer parce qu'en championnat, c'est pas forcément super. Mais alors, c'est aussi, ça fait partie de ces équipes qui ont l'air de mener deux compétitions en parallèle et pas toujours les mêmes. On pense au PSG, même à Brest et tout ça. Là, en tout cas, ils se sont rassurés parce qu'on a eu peur un peu pour eux, pour cette équipe Monaco.
À Nîmes-Monaco, ils viennent de perdre contre Montpellier qui était bon dernier demain, mais vraiment qui est complètement à la rue. Et ils ont réussi cet exploit alors qu'ils menaient encore. C'est un peu
ils
les spécialistes.
Sont incroyablement irréguliers.
Oui, de mener dans une rencontre. Ils l'ont fait aussi en Ligue des Champions. Et après, de se faire rattraper et de perdre finalement. Hier, ils ont fait un match extrêmement sérieux. Moi, je trouve qu'ils méritent vraiment. J'étais très déçu par Aston Villa, que j'ai trouvé très timide. Pratiquement jusqu'à la fin, Aston Villa a finalement eu très peu d'occasions, même si Majeski s'est mis en évidence, c'est un excellent gardien. Voilà, c'est un peu mathématique d'avoir un très bon gardien. Mm-hmm. Il a été très bon, mais le problème de Monaco, c'est qu'ils n'ont pas d'avant-centre, parce que ce soit Mbolo ou Ineka, que j'écrase le nom, mais tant qu'il n'y a pas Balogun, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Ils sont encore, il y a Biret qui vient d'arriver. Bon, c'est pas
Minamino,
encore.
Même s'il n'est pas avant-centre, il apporte pas non plus.
Non, c'est compliqué, mais en tout cas, hier, ils ont été extrêmement disciplinés. Et puis avec Ben Seguir, Akliouche,
Anparaté,
et Zakaria qui revenait, et comme par hasard, quand Zakaria est là, ça va mieux, avec Camara au milieu. Ils ont fait un match très sérieux et ils ont su le gagner assez logiquement. Ils sont qualifiés.
Et c'est très important. Et puis, il y avait ce match en rouge. Alors, on était là, admiratif des uns, tremblant pour les autres, et ça a donné un sacré match.
C'est bien joué dans le dos de Bradley, le centre en retrait. Aronson, le tir à ras de terre, et Jonathan David, le buteur symbole de ce Lille de folie. À 10, Lille revient à Anfield.
Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Les Lillois ont dû s'incliner à Anfield sur le score de 2-1. Et évidemment, ils ont dû admirer alors, le meilleur du monde, ou presque, un certain Mohamed Salah, parce qu'il était en mode ballon d'or hier soir. Même si, sans sa grande toison, là, on a du mal parfois à le situer sur le terrain. Les Lillois, ils n'ont pas démérité alors qu'ils étaient face à Liverpool, qui aligne pour l'instant le maximum de points. C'est la seule équipe. Ouais. 7 matchs, 7 victoires, Bruno.
Ouais, ils sont impressionnants. C'est une équipe qui prend très peu de buts en plus. Hein. Il n'a pris qu'un but sur l'ensemble de la campagne jusqu'à ce match-là.
Et rappelons que les Lillois ont été réduits à 10 hein, à un moment. Oui. Issa Mendy prenant un deuxième. On s'est même dit,
mais Lille va refaire le coup. Quoi. Au moment où ils sont réduits à 10, ouais, ils ne voient pas le jour.
Exactement.
C'est là qu'ils vont égaliser. Ils se créent même des situations en étant à 10 contre 11. C'est là où Pep Genesio est extraordinaire. Mais ouais, après, honnêtement, sur l'ensemble du match, pour moi, il y avait une classe d'écart. Le score, ça doit être 4-1 ou 5-1. Parce que Liverpool était largement au-dessus. J'ai pas trouvé que c'était un grand Liverpool. J'ai pas trouvé que c'était un grand Salah. Je trouve qu'il a fait son but est magnifique, mais je trouve qu'il a pris des mauvais choix. Il a joué beaucoup pour lui. Il aurait pu servir ses coéquipiers et être un peu meilleur. Mais c'est surtout une équipe de Liverpool qui a changé 5 titulaires au coup d'envoi. Donc a fait tourner. Et même en faisant tourner, ils ont un niveau différent du LOSC. Mais le LOSC, moi je trouve qu'ils font leur match. Quoi. C'est une équipe qui est très sérieuse, qui est très cohérente, qui est toujours bien en place, qui même quand elle est dominée, elle explose pas. Quoi. Et après, on parlait des gardiens. Là, pour le coup, ils ont un super gardien. Ouais. Lucas Chevalier, c'est en train de devenir un des meilleurs gardiens d'Europe.
Une fois qu'il a un peu démasqué les assauts des Reds, il a réussi quand même. Ouais. On a vu des regards des joueurs de Liverpool. Hein.
Ah ben en Angleterre, on s'est dit, ce gardien-là, Lucas Chevalier, ça fait déjà quelques fois en Coupe d'Europe. On se dit, ouais, pour les grands clubs européens vont commencer à regarder un peu son cas et s'intéresser à lui.
Non, il manquait hier un Zegrova, je pense que malheureusement, c'est le petit talent qui fait la différence en Ligue des Champions.
Ouais, c'est le trublion, quoi, celui inattendu.
Peut-être Gomez aussi au milieu. Il a aussi un effectif, il s'est donné les moyens, Bruno Genesio, d'avoir un effectif riche aussi. Mais c'est vrai que leur campagne, moi je suis admiratif de cette campagne. Et hier, ils sont tous sauf ridicules. Alors évidemment, c'est Liverpool. Mais ils sont là, ils reviennent au score. Mandy a défendu comme un U16. Donc il se fait exclure. Et malheureusement pour eux, ça gâche la fin de match. Et Liverpool marque sur un but totalement chanceux. C'est dommage. Moi, je les croyais capables d'aller jusqu'au bout avec ce match nul un partout. Mais ils n'ont pas de regrets. Ils vont recevoir, je crois, Feyenoord. Mm-hmm. Donc, eux aussi prétendent au top 8. Mm-hmm. Ce qui est quand même fabuleux quand vous avez joué l'Atlético, le Real, Liverpool et la Juve aussi. Mm-hmm. C'est incroyable. Le parcours de cette année de Lille, c'est juste fou.
En fait, c'est un parcours sérieux, on peut résumer comme ça, Manu. C'est-à-dire qu'ils ont pris chaque adversaire sérieusement, que ce soit des petits, des gros. Et on voit bien les coups qu'ils ont réussi face au Real ou à l'Atlético.
Face au Real, en plus, ils se sont fait un peu des jogos bonitos à la fin de match. je me souviens d'ici.
Ouais, ils ont pu se le permettre
Pep Genesio, non, je crois qu'il y a une magnifique préparation de chaque match. Chaque rival, il est très bien étudié et qui connaît quels sont ses avantages, ses points forts, mais aussi ses points faibles pour les minimiser. Et un exemple, c'est hier, je crois qu'il n'y a rien à reprocher. À 10, tu arrives quand même à égaliser. Ouais. Tout tient. Voilà, je crois qu'il n'y a rien à dire.
Face au premier indéniablement d'Europe du moment.
Tu parles de ces matchs il y a 2 mois, 3 mois au début de la saison, tu dis ça va être 3-0 facile. C'est un match très sérieux et je suis d'accord avec Bruno Chevalier. Je crois qu'il faut arrêter d'être timide et dire c'est un magnifique gardien français ou l'un des meilleurs de la France. Il faut aller un peu au-delà.
C'est peut-être sa taille qui va. Il n'est pas très grand hein, ou il apparaît très grand.
Mais je ne sais pas s'il est meilleur.
Ça peut bloquer des grands clubs.
Je ne sais pas s'il est parmi les meilleurs d'Europe. Mais la projection qu'il a, il a une meilleure projection au niveau d'Europe.
La lecture du jeu, il est très fort.
Et il brille dans les grands matchs. Et ça, c'est quand même les grands joueurs ou les grands gardiens. Il brille dans les grands matchs. Et lui, c'est le cas.
Eh bien, on suivra évidemment la semaine prochaine, hein, souvenez-vous.
À 89.
Ah, 89. Non, mais c'est important. Ouais. Donc, il n'est pas si. Voilà.
Non, il est quand même.
Pas si petit,
il fait pas si grand. Hein, mais...
Il est bien proportionné, on
pas
va
si
dire.
Gros, non, c'est pas vrai, si c'est petit. Ouais. La semaine prochaine, ça sera une soirée dingue, hein, celle du 29, où tout le monde jouera en même temps sur tous les terrains. Mais ce soir, il y a donc des matchs et on se retrouvera pour une deuxième partie de Radio Foot International. Merci, messieurs.
Merci.
Et bonne
merci,
soirée, Amy. Bon match.
Allez.